Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Martino.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Ben justement, je disais que la réalité américaine, c'est pas la réalité canadienne. Et l'historien Frédéric Bastien, qui est candidat à la direction du Parti québécois, qui a écrit justement un texte très intéressant sur sa page Facebook en disant, ben là, écoutez, là, c'est deux réalités différentes. Salut Frédéric Bastien.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour. C'est vrai que hier... Tu sais, il a manqué une bonne occasion, Justin, pour justement souligner le fait que le Canada, c'est quand même pas les États-Unis. On a le droit de critiquer nos voisins. Hein. Jean Chrétien l'avait fait lors de l'intervention en Irak. Lui avait refusé que le Canada participe à ça. Brian Mulroney aussi, qui avait beaucoup critiqué Reagan, qui ne s'impliquait pas dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il aurait pu faire ça, Justin, hier. Non, 21 secondes de silence. Puis après, c'est flagellé en disant qu'il existe du racisme systémique au Canada. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
Ben moi, je pense qu'il faut pas qu'il y ait d'amalgame dans ce genre de choses. De la même façon, quand il y a un attentat islamique, d'islamiques radicaux, il faut dire et répéter que l'immense majorité des musulmans sont des gens pacifiques et que c'est une toute petite minorité qui est prête à la violence. Et on dit à juste titre, ben pas d'amalgame. Alors, de la même façon, dire que le Canada, c'est comme un peu les États-Unis, non. Je pense que l'histoire nous enseigne, en fait, plutôt exactement l'inverse. Au niveau des relations raciales, le Canada a une histoire qui est complètement, alors là, complètement différente de celle des États-Unis.
Parce que là, on entend des fois, il y a des militants, entre autres Webster, qui nous rappellent que oui, il y a eu de l'esclavage au Québec, nous autres aussi, puis tout ça, mais que ça n'a rien à voir, l'esclavage qu'il y a au Québec et au Canada, par rapport au problème de l'esclavage aux États-Unis.
Absolument. Et d'ailleurs, il y a 12 millions de Noirs africains qui ont été capturés, qui ont été amenés vers les Amériques pour l'esclavage quand cette pratique existait, là, au 17e, 18e, 19e siècle. Et là-dessus, si vous prenez le Canada, il y en a 0,01% du total de ces Noirs capturés en Afrique qui sont venus au Canada. Alors, les sociétés esclavagistes, c'était le Brésil, les Antilles, le sud des États-Unis, le nord un peu aussi. Mais bref, ça n'a aucun rapport. Et on a beaucoup parlé de frontières, de réfugiés dans les dernières années, tout ça. Ça a fait l'actualité à plusieurs reprises. La première grande vague de réfugiés qui est arrivée au Canada, c'était au milieu du 19e siècle. C'était des esclaves noirs américains qui fuyaient et arrivaient au Canada pour retrouver leur liberté là où la police américaine ne pouvait plus les capturer. Il y a des dizaines de milliers de noirs américains qui sont arrivés comme ça au Canada et ça a été les premières grandes populations noires, là, une des premières grandes populations noires arrivées au Canada, c'est des esclaves en fuite.
Ça me fait penser à la série The Handmaid's Tale là, de Margaret Atwood où les femmes là, qui sont maltraitées aux États-Unis là, veulent se réfugier au Canada. Là, c'était les Noirs, c'est ce qu'on appelait le Underground Railroad là, finalement. Là. C'était ce chemin-là qu'ils prenaient pour venir au Canada se réfugier.
Oui, absolument. Et ces gens-là ont été accueillis. Là. Il n'y a pas personne au Canada qui a dit on devrait les retourner à l'esclavage. Là. Et que non, il y avait une réelle hostilité à l'esclavage au Canada. Et d'ailleurs, quand la guerre civile américaine a commencé en 1861, il y a des dizaines de milliers de Canadiens, Canadiens anglais et français, qui se sont enrôlés dans les armées de l'Union, puis ça, c'était des volontaires. Évidemment, nous, on n'avait pas à s'enrôler. Ils ont traversé les lignes où ils étaient déjà aux États-Unis et ils se sont enrôlés. Et notamment, moi, je tiens à le dire parce que je trouve que c'est un exemple parlant. Calixte Lavallée, l'un des deux auteurs de notre hymne national, s'est joint à un régiment du Rhode Island. Puis il a fait toute la guerre de sécession pour un régiment du Rhode Island. Après ça, il est rentré au Québec. Mais il y avait donc les relations raciales n'étaient pas du tout vues du même œil, là. Ça se vivait pas du tout de la même façon au Canada.
Et le KKK, est-ce qu'il y avait une branche du KKK au Canada?
Ben voilà un autre exemple. Le KKK a été très peu populaire au Canada. Et l'endroit où il a été le plus populaire, c'était en Saskatchewan. Là, il y a un an. C'est vraiment l'exception, si je puis dire. Mais encore là, ça n'a pas duré longtemps et il s'attaquait surtout aux catholiques, aux immigrants, aux Canadiens français. Bref, ça n'a pas été un épisode marquant. Il n'y a pas eu de lynchage au Canada. Aux États-Unis, pendant des décennies après la guerre civile américaine, surtout dans le Sud, mais pas juste dans le Sud, il y avait des vindictes populaires contre des Noirs qui étaient pendus par des foules en colère parce qu'ils étaient accusés de ceci ou cela. Il y avait des histoires particulièrement dramatiques.
Dans les années 50-60, là.
Oui, c'est ça. Et là, on parle de 4000, au-delà de 4000 victimes. Ça, c'est vraiment... Et ça, au Canada, ça n'a jamais existé. Donc.
Et on nous ressort aussi qu'il y a eu Adrien Arcand, qui était quand même là, un parti nazi au Québec, preuve qu'il y avait du racisme au Québec. Mais Adrien Arcand, est-ce que c'était quand même un épiphénomène, quoi? C'était-tu un parti important?
Non, Adrien Arcand n'avait pas beaucoup d'appui. Il y avait des partis d'extrême droite comme Adrien Arcand. Il y en avait en Grande-Bretagne, il y en avait en France, il y en avait aux États-Unis. Alors, évidemment, si vous comparez le Canada avec un espèce d'idéal utopique, alors on est loin de la perfection, là. C'est sûr qu'il y a il y en a eu du racisme au Canada, il y en a encore de l'intolérance. Mais si vous comparez le Canada à des pays qui existent dans la vraie vie, là, à des moments qui ont existé dans l'histoire à d'autres périodes. Donc, quand on se compare à ce qui existe dans le monde ou ce qui a existé dans le monde, notre bilan en termes, en tout cas, si on parle de relations raciales entre les Blancs et les Noirs, là, notre bilan, il est quand même, moi je pense, il est quand même positif, même s'il n'est pas parfait. Là. On se comprend. Là.
Mais Frédéric, mon Dieu, j'aurais aimé ça vous avoir comme prof d'histoire. J'aurais adoré ça vous avoir comme prof d'histoire. Comment ça qu'on ne nous enseigne pas ça? Et j'ai l'impression que on nous enseigne beaucoup, là. T'sais, c'est un peu un enseignement victimaire, c'est-à-dire que on souligne toujours ce qui ne fonctionne pas, mais c'est bien aussi de dire, sans faire l'apologie du Canada et l'apologie du Québec en disant que nous sommes des paradis, mais quand même aussi de montrer aux jeunes Québécois, aux jeunes Canadiens qu'on a de quoi être fiers de nos sociétés, de notre histoire aussi.
Ben moi, je pense qu'il faut souligner les bons coups, les moins bons coups. Faut pas faire une histoire à l'eau de rose. Mais si on parle en particulier de la question des Noirs, ben là-dessus, je pense qu'on a quand même un bilan qui est quand même assez positif. Là, après ça, si on parle des Amérindiens, ça va être une autre question. Ça va être une autre. Le bilan est moins reluisant. Donc, faut faire les nuances. Mais si on parle spécifiquement des relations avec la communauté noire, comment ça s'est passé au Canada, puis comment ça se passe, ça n'a vraiment rien à voir avec les États-Unis.
Frédéric, il y a une journaliste de CGAD qui, sur Twitter, a fait un parallèle entre le drapeau des Patriotes et le drapeau confédéré là, américain, qui est le symbole de l'esclavage. Il y a des gens qui profitent de la crise actuelle qu'il y a aux États-Unis pour refaire le procès du Québec en disant, regardez la Charte des valeurs, regardez la loi 21, regardez la loi 101, regardez la fameuse phrase de Jacques Parizeau, il y a un racisme systémique au Québec. Puis là, on tu sais, c'est toujours ces gens-là qui font le procès du Québec, nous sommes xénophobes, intolérants, etc.
Ben, c'est l'accusation standard de nos jours quand on veut discréditer quelqu'un. Pardon. On dit, ben voilà, c'est un raciste, c'est un intolérant. Alors que tout le débat sur la loi 21, pour une raison que je m'explique pas complètement, mais du côté anglophone, il y a plusieurs font une association entre la religion et la race, alors que c'est évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Il y a des gens qui sont, il y a des chrétiens de toutes les races, il y a des catholiques de toutes les races, il y a des musulmans de toutes les races, il y a des juifs de toutes les races. Moi, je suis allé souvent en Israël et en Israël, il y a une minorité noire juive qui est originaire d'Éthiopie. La religion et la race, ça n'a aucun rapport. Et le message, je vais prendre l'exemple d'Église catholique, ça s'est toujours voulu un message universel qui s'adressait à toutes les populations de la Terre, nonobstant leur couleur de peau. Donc, la religion, par essence, me semble-t-il, est quelque chose qui s'adresse pas du tout aux races. Ça n'a aucun rapport. Donc je comprends pas pourquoi pourquoi on fait pas cette nuance.
Et autre chose que je ne comprends pas aussi, peut-être qu'en tant qu'historien, vous allez pouvoir éclairer mes lanternes, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui est arrivé au mot nationalisme? Comment ça se fait que ce mot-là, qui était un mot qui était noble dans les années 70, le nationalisme, c'était bien vu, s'est rendu quasiment maintenant un mot radioactif? Est-ce que c'était à cause du fameux cours d'éthique et de culture religieuse? Chez les jeunes, le nationalisme, ça égale fascisme, là, presque.
Ben, en fait, il y a deux choses. Le mot nationalisme, ou l'idéologie nationaliste a été, disons, critiquée beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale à cause du nazisme, à cause du fascisme en Europe. On a dit, ben, c'est pas correct d'être nationaliste. Enfin, pas tout le monde a dit ça, mais certains l'ont vu comme ça et ont commencé à le critiquer comme ça. Au Québec et au Canada, la différence, là, si on parle spécifiquement du nationalisme québécois, c'est que dans les années 70, je dirais, au sein de la gauche canadienne-anglaise, il y avait une culpabilité par rapport au sort des francophones dans le Canada, par rapport à la situation des Québécois. Donc, les Québécois étaient vus comme des victimes, les francophones étaient vus comme des victimes. Et par conséquent, on attaquait moins, ça se faisait déjà, mais il y avait moins des attaques moins virulentes en disant nationalisme égale intolérance, égale racisme, égale ceci, égale cela. Mais à partir des années 90, tout d'un coup, il y a eu un changement au sein d'une certaine gauche canadienne-anglaise. C'est devenu les Autochtones qui étaient la minorité oppressée. C'est devenu de plus en plus commun, de plus en plus acceptable chez certains commentateurs, chroniqueurs, puis penseurs, d'attaquer le nationalisme québécois en disant qu'il est foncièrement et intrinsèquement porteur.
Donc, on est passé de coloniser, hein, c'était l'époque de nègre blanc d'Amérique, là, on était les colonisés à colonisateurs.
Oui, c'est ça. On est passé d'oppressé à oppresseur. Et là, donc, comme on est dans la catégorie oppresseur désormais aux yeux de certains, alors là, évidemment, bon, il n'y a plus aucune nuance qui se fait dans cette espèce de dichotomie, là, oppressé-oppresseur. Là. Et donc, nous, on est dans la catégorie des oppresseurs et il n'y a plus de nuances qui se font.
C'est très intéressant de vous parler parce que ça montre, là, quand on connaît notre histoire, là, on n'arrive pas avec des grossièretés comme les États-Unis, c'est le Québec, puis il y a du racisme systémique, puis tout ça. Lorsqu'on connaît l'histoire, on met les choses en perspective. Je reviens là-dessus, j'aurais aimé vous avoir comme prof d'histoire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec le PQ? Il va-t-il avoir un chef à un moment donné au PQ, là?
Ben là, notre course recommence dans deux jours, alors et on va avoir une élection au début octobre prochain, donc on va avoir une course au PQ, il va y avoir un chef au PQ. On va être dans une course inédite parce que là, évidemment, on est en semi-confinement, ben oui. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire.
Est-ce qu'il va y avoir un débat? Vous allez avoir tous un masque au débat? Comment ça va se passer?
J'espère qu'on n'aura pas de masque au débat. Là. J'imagine qu'on va respecter les directives de la santé publique, là, mais
ben oui.
Ce qui va nous manquer, je pense, malheureusement, c'est le contact avec les militants sur le terrain. Ça va être, j'imagine, réduit à sa plus simple expression, là, parce qu'on peut pas être plus que 10, là, enfin, pour l'instant, du moins. Donc, c'est sûr que ça va être une course handicapée, là, malheureusement pour nous, là. On pourra pas faire une course comme on les a connus là, jusqu'à tout récemment. Là.
Ben, en tout cas, j'invite les gens à lire votre page Facebook, ce texte-là, « Le Canada, les États-Unis et le racisme, que nous enseigne l'histoire ». Et bonne course, Frédéric Bastien, puis on se reparlera, bien sûr, au cours des prochaines semaines. Bonne course, merci.
Parfait, merci Richard. Merci.